Dans mon culte personnel, cette semaine, j'en suis venu à regarder à la vie du grand roi David. Nous avons tant à apprendre de la vie du roi David, et en particulier dans la manière dont Dieu agit avec David. Voilà le plus grand roi que la terre ait connu jusqu'à Christ. Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir les derniers conseils que David formule à son fils Salomon. Dans le passage que nous allons étudier aujourd'hui, nous est rapporté les toutes dernières paroles du roi David. Et ces paroles m'ont interpellé. Elles m'ont amené à me demander si je pouvais choisir quelles seraient mes dernières paroles. Je n'ai pas encore trouvé la réponse, cependant, à cette question. Mais cela m'a fait réfléchir. Quelles ont été les dernières paroles d'autres personnes connues? Les dernières paroles de Mère Teresa étaient les suivantes. « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Buvez pour moi, buvez à ma santé. » Dernière parole de Pablo Picasso. Les dernières paroles d'Edgar Allan Poe auraient été, dit-on, « Seigneur, aide ma pauvre âme. » Ne t'inquiète pas, il n'est pas chargé. Dernière parole de Terry Kath, fondateur du groupe de rock Chicago. Ou alors Pancho Villa, le révolutionnaire mexicain. Ça ne peut pas terminer comme cela. Dites-leur que j'ai dit quelque chose. La comtesse du Barry, encore un instant, monsieur le bourreau. Désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. Ce sont les dernières paroles du roi David. Du roi David. Étonnant, n'est-ce pas? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre des rois, au chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 12. C'est à la page 399-400 des Bibles bleues que vous trouverez sur les bancs devant vous. Un roi, chapitre 2, versets 1 à 12, page 399. Un roi, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort. Il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils de Ner, et à Amasa, le fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé, pendant la paix, le sang de la guerre. Et il a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant au fils de Barzillai, le Galaadite, tu les traiteras avec bonté, et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi, en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici, il y a près de toi Shimei, le fils de Guéra, le Benjaminite, de Bakurim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Mahanaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. David se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron, et 33 ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, ce que nous essayons de faire, c'est de prendre la Bible et de regarder ce qu'elle a à nous dire pour nous aujourd'hui. Alors en quoi les dernières paroles d'un roi qui a vécu il y a 3000 ans peuvent-elles nous intéresser ce matin ? David a été le plus grand roi de l'Ancien Testament, et peut-être l'un des plus grands rois tout court. Aujourd'hui encore, des enfants sont appelés David en l'honneur de ce grand roi. Et pourtant, ses dernières paroles sont « C'est dans le sang que tu feras descendre ses cheveux blancs au séjour des morts ». Comment comprendre ces dernières paroles de David ? Je crois que ces paroles peuvent être expliquées, comprises, et même qu'elles peuvent nous enseigner quelque chose pour nous aujourd'hui. Parce que même si ces paroles paraissent à première vue presque amères et glaciales, David annonce des choses vraies et importantes. Pour comprendre son dernier propos, il faut regarder à tout le discours que fait David. David parle à son fils Salomon et il souhaite lui rappeler trois choses. Ce sont ces trois éléments que nous allons regarder ce matin. Salomon, souviens-toi du vrai roi. Salomon, souviens-toi de ta responsabilité. Et Salomon, souviens-toi de faire du bien. Tout d'abord, souviens-toi du vrai roi. Verset 3. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. David est encore roi, mais il sait qu'il est à l'article de la mort et que son fils Salomon va devenir roi, Dieu lui ayant promis une dynastie royale. Promesse qui est formulée à plusieurs reprises, je cite ici celle qu'on trouve dans 2 Samuel chapitre 7, versets 11 à 16. L'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin, et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. David dit à son fils de se rappeler qui est le vrai roi. Oui, Salomon, tu auras du pouvoir. Oui, tu seras roi. Mais avant que tu ne commences à exercer ton pouvoir, souviens-toi qui est le roi légitime, qui est le vrai roi. Tu es roi, oui, mais ce n'est pas toi qui fais les lois. Tu es roi sous l'autorité de Dieu, ton Dieu. Il est lui, le vrai roi. Marche dans ses voies, garde ses lois, ses préceptes, ses commandements. Oui, Salomon, demain tu seras roi. Mais tu es aujourd'hui comme tu seras demain. Tu seras toujours sous les ordres de Dieu, lui, le vrai roi. C'est là une belle conception de la royauté qu'a David, n'est-ce pas ? Je suis toujours frappé par toutes ces personnes avides de pouvoir, d'autorité, et qui se croient supérieures aux lois. Avoir du pouvoir ou de l'argent ne veut pas dire qu'on est libre de la loi, au contraire même. La police ne peut pas faire ce qu'elle veut. Un homme politique n'est pas au-dessus des lois. Un maire, de même, ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Salomon sera roi, oui, mais il sera toujours sous les ordres, sous la loi de Dieu. Ce n'est pas lui qui fixera les lois, étant lui-même sous la loi de Dieu. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies. Garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ces paroles de David à son fils sont tout à fait applicables pour nous aujourd'hui. Nous sommes sous l'autorité du vrai roi. Marchons dans ses voies. Observons les commandements de l'Éternel. Vous le savez probablement, les descendants de David n'ont malheureusement pas marché toujours dans les voies du Seigneur. Et cela a eu des conséquences désastreuses pour le royaume. Ils se sont éloignés de Dieu, ils sont tombés dans le péché, dans l'idolâtrie. Dans un premier temps, le royaume se trouvera divisé en deux. Peu de temps après, le pays sera conquis, le peuple déporté. Et nous sommes, les jeudis soirs, lors de l'étude biblique, en train de regarder à la situation du peuple lors de la division du royaume à travers du livre du prophète Michée. Souviens-toi de l'Éternel. Dans nos vies, si nous ne marchons pas, ou lorsque nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, comprenons que cela va amener la misère et la tristesse dans notre vie. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que si nous marchions en tout temps selon la loi de Dieu, nous pourrions et nous connaîtrons la souffrance. Notre monde est un monde de souffrance à cause du péché. Nous connaîtrons la souffrance. Et la vie de Jésus le montre bien, il a vécu sa vie de manière parfaite, il n'a jamais désobéi à Dieu son Père, il n'a jamais eu de paroles mauvaises, il n'a jamais eu même de pensées mauvaises. Il a été bon en toute occasion, mais il a été mis à mort sur une croix, tel un brigand. Mais comprenons, et c'est là, je crois, ce que David veut faire comprendre à son fils, comprenons que souvent, notre infidélité, c'est notre infidélité qui va amener beaucoup de malheur dans notre vie. Marcher dans les voies de Dieu, c'est important pour notre vie. Ne laissons pas place au péché. Ne nous habituons pas à notre péché. C'est important pour nous, pour nos vies, mais également pour l'extérieur, pour notre témoignage. Si les gens du dehors savent que vous êtes chrétien et qu'ils ne vous voient pas vivre comme Jésus veut que vous viviez, cela ne va pas donner une bonne image de Jésus et de la foi chrétienne. Marchons dans ses voies. Marcher, c'est plus que seulement écouter. C'est même plus que seulement croire. Marcher, c'est appliquer dans sa vie. C'est vivre jour après jour. Le vivre jour après jour. C'est se soumettre, comme le dit David, à son fils. Et vivre jour après jour. Dans la parabole des deux maisons que l'on retrouve en Matthieu chapitre 7, Jésus parle d'un fou qui a bâti sa maison sur le sable et d'un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents soufflent, la pluie tombe et seule la maison qui a été bâtie sur le roc reste debout. Et Jésus dit, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique est comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » Quiconque entend et met en pratique. Si nous disons croire à Dieu, alors nous devrions vouloir obéir à Dieu. Et ainsi, notre comportement pourra interpeller. Si vous obéissez à Jésus et que vous mettez en pratique dans votre vie ce que vous croyez, vous aurez toujours à expliquer que vous êtes chrétien. Non pas par rapport à ce que vous faites, mais par rapport à ce que vous êtes enfant de Dieu. Si vous obéissez, si nous obéissons aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'obéissance va nous rendre chrétiens, enfants de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes enfants de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ que nous obéissons. Comprenez-vous ce que je veux dire? Laissez-moi reformuler. Nous n'entrons pas en relation avec Dieu par notre obéissance. Mais c'est parce que nous sommes déjà dans une relation d'amour avec Dieu que nous obéissons à sa volonté. Et il est important pour nous de comprendre et d'expliquer cela. Oui, notre attitude, notre comportement au quotidien va interpeller les non-chrétiens si nous obéissons. Mais c'est le message de l'Évangile qui va transformer les vies. La mise en pratique de ce que nous croyons va interpeller les gens, mais ce n'est pas elle qui va convertir les personnes. À nous d'expliquer notre comportement, à nous d'expliquer que Jésus est venu sur terre, qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est venu afin de donner sa place, sa vie à la place de la nôtre. Et que c'est en réponse à ce qu'il a fait pour nous que nous cherchons aujourd'hui à lui obéir, à lui être agréable. On ne devient pas chrétien en faisant de bonnes choses. On devient chrétien en croyant ce que Jésus a fait pour nous. Comprendre ce que Jésus a fait pour nous va nous permettre d'avoir à cœur de marcher dans ses voies, d'obéir à ses commandements. Cherchons à marcher dans les pas de Dieu. Cherchons à appliquer dans nos vies ce que nous croyons. Souviens-toi du vrai roi. Salomon, souviens-toi de ta responsabilité. Relisons les versets 5 à 9. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils de Ner, et à Amasa, le fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant au fils de Barzilaï, le Galaadite, tu les traiteras avec bonté et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici, il y a près de toi Shimei, le fils de Guéra, le Benjaminite de Bachurim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Mahanaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. Les voilà, les versets les plus difficiles à comprendre. David semble ici, au premier regard, motivé par un désir de vengeance personnelle. Et ainsi, David d'établir une liste de personnes qu'il faut mettre à mort. Cela ressemble à cela, n'est-ce pas? Mais pour mieux comprendre, réfléchissons à ce qu'est un roi. Un roi idéal, que fait-il? Le pouvoir du roi et son devoir, c'est d'appliquer la justice. C'est de rechercher le bien pour son peuple. C'est comme cela que Dieu voit le roi. C'est comme cela qu'il le veut. Et c'est comme cela que Dieu voit quiconque dans une position d'autorité. D'après l'apôtre Paul, le rôle du roi, c'est de mettre en œuvre la justice. Romains 13, verset 4, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains. » Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Aujourd'hui encore, les autorités ont toujours le pouvoir de juger, de condamner ce qui est contraire à la loi. Dans ses dernières paroles, au verset 5, au verset 6, au verset 8, au verset 9, David se positionne comme le représentant de Dieu. C'est sa responsabilité que d'exercer la justice. C'est de sa responsabilité. Malheureusement, il ne l'a pas toujours fait comme il aurait dû. Qu'au moins, Salomon, lui, le fasse. Il y a deux cas d'injustice flagrants qu'il n'a pas réussi à régler. Il y a tout d'abord le cas de Joab. Alors que David était roi, il y a eu deux meurtres horribles et ces deux meurtres ont été commis par le même homme, Joab. Joab était le neveu de David. Et Joab a été très haut placé dans la hiérarchie politique. Il était général en chef de l'armée de David. Mais Joab a tué deux personnes en temps de paix. Mais il était tellement haut placé dans la hiérarchie, tellement proche de David, que David n'a pas eu le courage et la force de le confronter à la justice. Et ce n'était réellement pas juste que Joab échappe aux conséquences de ses actes. Imaginez ce que devaient ressentir les familles de ceux que Joab avait assassinés. Ce n'est pas juste que lui, Joab, soit encore vivant, non jugé pour ses actes coupables dont il ne s'était pas repenti. Le crime de Joab ne peut plus rester impuni. Salomon, mon fils, sois fort, plus que moi, et applique la justice. Joab, premier cas, mais également Shimei, au verset 8. Shimei était un homme qui a été faible avec David lorsque sa royauté était affermie, puis fort avec David lorsque la royauté de celui-ci était remise en cause. David, fuyant pour sa vie, Shimei ne trouva rien d'autre à faire que chercher à lapider David. David n'a pas appliqué la justice dans un premier temps. Le temps de la justice est maintenant arrivé. C'est de la responsabilité du roi que d'exercer la justice. Malheureusement, David ne l'a pas toujours fait. Son exhortation à son fils Salomon, c'est qu'il ne fasse pas la même erreur. David semble culpabilisé de ne pas avoir accompli à ce sujet-là, sur ce sujet-là, son rôle de roi. Et il souhaite que Salomon, son fils, ne fasse pas les mêmes erreurs que lui. Fortifie-toi, Salomon. Sois un homme. Il n'est pas toujours facile d'appliquer la justice. Mais un vrai roi, un roi selon Dieu, doit chercher à appliquer une juste justice. Ceux qui sont en poste d'autorité ont parfois peur d'utiliser le pouvoir qui leur est donné, particulièrement quand il s'agit de répondre mal. Et ce n'est pas là une problématique d'hier, aujourd'hui encore. Il n'est pas facile de vouloir que justice se fasse. Appliquer la justice n'est pas toujours facile à faire. Alors quel est l'enseignement pour nous ce matin? Je crois qu'il y a là quelque chose d'important pour nous en tant qu'Église. Nous sommes, nous, Église de la rue de Sèvres, sous l'autorité de Dieu. Nous sommes sous la royauté de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui affirme la chose suivante en Colossiens chapitre 1er, verset 18. Jésus est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Le pasteur n'est pas le chef de l'Église, le conseil n'est pas le chef de l'Église, les membres non plus. Jésus-Christ est à notre tête. Alors oui, Dieu dans sa grâce donne des pasteurs, des anciens pour mener son Église. Mais n'oublions pas que l'Église est sienne. Elle restera toujours son Église. Et Jésus, aujourd'hui, dirige son Église à travers sa parole. Les rôles qu'ont les responsables dans l'Église, c'est de rappeler aux troupeaux, aux frères et sœurs, ce que David rappelle à Salomon. Observez les commandements de l'Éternel, marchez dans ses voies, gardez ses lois et rappelez les paroles de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Nous prenons la Bible et nous essayons de la comprendre, de mieux la comprendre et de l'appliquer dans nos vies. L'autorité dans l'Église locale, c'est la parole de Dieu. Les pasteurs, les anciens sont là pour l'annoncer, pour l'expliquer, pour favoriser son application fidèle. Ils sont là pour que l'autorité de la parole de Dieu s'exerce. La responsabilité du conseil de l'Église, c'est veiller à l'autorité de la parole. Veiller à l'autorité de la parole. Dans des cas difficiles où une discipline doit être appliquée à quelqu'un, c'est l'Église qui s'efforcera de placer le pécheur face à la réalité de sa situation et qui, le cas échéant, devra être prête à aller jusqu'à le mettre à l'écart si elle est non repentante. Parce que nous cherchons à nous soumettre à la parole de Dieu, à ce qu'elle nous dit, à ce qu'elle nous enseigne. Elle est notre autorité. Les responsables de l'Église, le conseil, guideront l'Assemblée pour ces décisions difficiles et douloureuses, dont on peut espérer qu'elles soient exceptionnelles. Mais l'Assemblée et les responsables doivent aussi éviter de s'accommoder d'une situation de désobéissance flagrante. Nous ne pouvons agir comme David l'a fait dans un premier temps, en n'osant rien dire à Joab et Shimei. Et parfois, et je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, mais parfois les responsables de l'Église n'ont pas, par peur de créer des problèmes, le courage de réagir aux péchés flagrants de certains. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le courage de chercher à appliquer la volonté de Dieu, d'annoncer l'autorité de la parole de Dieu. Et nous avons, au Conseil, besoin de vos prières. Et comme toute l'Église doit s'entretenir dans la prière pour rester fidèle et annoncer le message de la vérité, de la justice et de l'autorité de la parole de Dieu. Quand avons-nous pour la dernière fois prié pour le Conseil de l'Église? Je ne cherche pas à nous culpabiliser ce matin, mais plutôt à nous sensibiliser à ce besoin. Nous avons besoin de vos prières. Notre conseil est composé de 7 anciens et de 3 diacres. Voici les anciens par ordre alphabétique. Paul Harrison, Clifford Marseille, Matthew Sanders, Étienne Savin, Édouard Sundurayen, Stéphane Tanto et moi-même. Nos 3 diacres sont Marc Benner, David Porteus et Margaret Trévisan. Prions que Dieu donne à son Église et qu'il donne au conseil le courage de rechercher sa volonté et d'agir toujours dans ce sens. Je suis persuadé que vos prières pour le conseil de l'Église sont nécessaires, nécessaires pour la bonne marche de l'Église. Merci pour vos prières pour nous. Salomon, souviens-toi de faire du bien. Verset 7. Quant au fils de Barzilaï, le Galaadite, tu les traiteras avec bonté et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi, en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. David se souvient maintenant de la fois où son plus jeune fils Absalom a tenté de le tuer. David a dû fuir loin de Jérusalem. Et cet homme, Barzilaï, aimait le roi parce qu'il aimait Dieu. Et alors il a donné des provisions à David. Et David se souvient de cet épisode. Et il dit à son fils, traite-le comme un ami. Qu'il mange à ta table. Quand j'aurai quitté ce monde, fais en sorte que cet homme et les fils de cet homme soient bénis. Cet homme, Barzilaï, il en est fait mention des centaines d'années plus tard dans le livre de Néhémie. C'était un homme de Dieu et ses descendants également. Nos vies sont courtes. Nos vies sont courtes. Mais elles peuvent avoir un impact qui dépasse même notre mort. Si nous montrons la bonté, l'amour, la générosité, la justice, cela peut marquer et va marquer la vie d'autres personnes. Faire du bien, prier pour quelqu'un, être là pour lui, cela va avoir un impact énorme dans la vie de notre prochain. Ayant grandi dans l'Église, il m'est possible de témoigner du bien que beaucoup m'ont fait et dont il m'arrive de repenser des années après leur décès. Ne sous-estimons pas l'impact de la puissance de l'Évangile et du témoignage de l'Évangile. Nos vies sont courtes sur terre, mais elles peuvent avoir un impact qui dépasse notre mort. Et Jésus en est l'exemple parfait à une échelle bien plus grande. Ce qu'il a fait dans sa vie ne s'est pas arrêté à sa mort. La différence qu'il y a entre Jésus et nous, une des différences, c'est que nous avons été bénis par sa mort. Notre mort nous sera le retour vers notre Père. Sa mort à lui, c'était descendre aux enfers à notre place. Et parce qu'il est mort, nous vivons. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Quelques mots de conclusion. Dans ses dernières paroles, David, s'adressant à Salomon, dresse en quelque sorte le portrait du roi idéal. Présentant cela comme l'objectif à atteindre pour Salomon. Mais en fait, au-delà de Salomon, c'est bien le roi idéal, Jésus-Christ, qui est dépeint ici par anticipation. Ces 3 exhortations, David n'a pu les appliquer parfaitement, Son fils Salomon ne le fera non plus. Et aucun descendant de la lignée de David n'y arrivera jusqu'à l'arrivée de Jésus, issu de la descendance du roi David. Le voilà, le roi par excellence, Jésus-Christ. Le voilà, celui qui ne reculera pas devant la justice. Et ainsi Jésus pourra accomplir cette prophétie d'Ésaïe 50, verset 5, prophétie que nous avons étudiée il y a quelques semaines. « Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. » Jésus n'a pas reculé devant sa mission. Jésus n'a pas eu peur de rechercher la justice face au péché. Devant la violence, devant les crachats, devant la croix, Jésus n'a pas eu peur de rechercher la justice. Il ne s'est pas laissé corrompre. Jésus a vécu sa vie, le regard fixé sur son Père. Il s'est souvenu de son Père. Jésus a vécu sa vie conscient, pleinement conscient de sa mission. Prendre sur sa personne le péché de son peuple. Jésus n'a jamais oublié de rechercher le bien. Il n'a jamais répondu au péché par le péché, mais au contraire, il a toujours répondu par le bien. Allant jusqu'à dire à la croix, paroxysme de douleur face au péché, « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Jésus est celui qui a parfaitement vécu la fidélité à son Père, uni à lui, accomplissant parfaitement sa mission. Il est le roi de justice, le juge parfait, sans péché et connaissant toutes choses. Il est le juge dont le jugement sera sans appel pour ceux qui n'auront cherché et reçu son pardon. Il est le roi d'amour et de bienveillance, désirant bénir et accueillir auprès de lui ceux qui se sont tournés vers lui. Et il les bénira jusque dans l'éternité. Le voilà, Jésus-Christ, le roi tant attendu. Le voilà, le roi glorieux de la lignée de David. Le voilà, celui qui peut délivrer du péché et de la mort. Jésus-Christ, le voilà, le vrai roi. Amen.